Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
avec Eric Salio.
Salut à toutes et à tous. Après une journée de pause forcée, le tournoi de Madrid reprend aujourd'hui et on mise évidemment dessus dans les paris 100% tennis avec 4 affiches au programme: Zverev Cherundolo, Fritz contre Rude, Medvedev Nakashima et enfin chez les femmes Svitolina contre Sakkari. On parle de tout ça dans un instant. Le temps pour moi d'accueillir notre consultant Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous.
Bon Eric, comment on se sent comme ça après une journée de pause forcée, cette panne de courant qui a immobilisé littéralement tout le pays et donc ce tournoi?
Écoute, je pense que les organisateurs ont eu quand même une sueur froide parce que quand tu as une coupure de courant comme ça, tu te dis bon, c'est passager, mais en fait tu te rends compte que ça dure, tu te rends compte que ça a frappé tout le pays, même le Portugal, un peu le sud de la France.
Mais bon,
ils ont très vite acté l'annulation de la journée parce qu'ils voyaient bien que c'était injouable. Et puis en termes de sécurité aussi, parce que comme le site de Madrid est bizarrement foutu, je vous l'ai déjà dit, c'est un hall d'aéroport, donc il n'y a plus de courant. Donc c'était le noir complet au niveau des cours principaux. Et les gens se dirigeaient vers les cours annexes. Ça posait des gros problèmes de sécurité parce qu'il y a trop de monde.
C'est ça.
Mais il y a eu des scènes insolites, hein. On en rigole maintenant, mais le match entre Dimitrov et Firmley sur le central n'a pas pu se finir à la main, j'ai envie de dire, parce qu'il aurait pu finir avec l'annonce de l'arbitre, même sans arbitrage électronique, tu peux finir. Mais ils n'ont pas pu finir. Pourquoi? Parce qu'au moment de la panne, la Spider-Cam circulait au-dessus du court, et elle était à 3 mètres au-dessus du court. Donc les joueurs ont dit, mais attendez, monsieur l'arbitre, on ne peut pas jouer avec ce truc-là, au-dessus de nous. Déjà, ils avaient peur que ça tombe, peut-être. Et puis même, ça gênait pour des lobes ou des balles extrêmement liftées. Donc, ce match-là a été interrompu, je crois, à 6-4, 5-4. Il faudra vérifier, mais bon, c'est un détail. En revanche, il y a le match d'Arnaldi. Lui, c'est fini à la main, donc avec des annonces sans micro de l'arbitre qui a arbitré sans vue de ligne. C'était assez extraordinaire. Et Coco Gauff, elle aussi,
oui.
Interview d'après-match, paf, panne de son.
Incroyable.
Et là, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Bon, elle dit c'est une panne de micro, ça peut arriver. Et puis, elle se rend compte que c'était un vrai problème, que les mecs de la sécurité, lui, on ne prend pas l'ascenseur, on prend les escaliers. Elle arrive au vestiaire, c'est noir complet, ne peut pas prendre de douche. Et je sais que certains joueurs, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, sont rentrés à pied à l'hôtel, une heure de marche, parce que c'était le chaos total dans Madrid. Mais là, bon, soulagement, ça a repris à midi, donc tout va bien. Tout va bien, le tournoi peut se poursuivre normalement.
Eh ben, tant mieux, ça nous permettra donc de faire nos paris aujourd'hui. Pas de récap de la veille, ça attendra demain donc. Ça sera un méga récap, donc demain pour vous. 8 matchs en espérant 8 sur 8 donc pour toi Eric. On va donc commencer avec cette affiche qui oppose Alexander Zverev à Cherundolo, avec des cotes en la faveur de l'Allemand, 1,50. Cherundolo lui est à 2,60. C'est le deuxième au classement ATP contre le 21e. D'ailleurs c'est l'Argentin qui mène 2-0 dans les confrontations. Et en plus, deux succès sur ocre, les deux joueurs qui sont en forme. 7 victoires consécutives pour Zverev qui s'est notamment imposé à Munich. Cherundolo lui s'est hissé jusqu'en demi-finale de ce tournoi. Il est auteur d'un bon début d'année, l'Argentin. Eric, au niveau des confrontations, est-ce que tu es tenté d'aller sur la grosse cote de l'Argentin ?
C'est très tentant. Et puis à la fois, tu te rends compte que c'est sûrement le Masters 1000 sur Terre préféré de Zverev. D'ailleurs, je crois qu'au micro, je crois que c'était après son premier tour, il avait dit qu'il n'avait perdu que 2 matchs sur le central. Donc c'est très peu, effectivement. Il y a un cours qu'il a réussi parce que voilà, c'est en altitude, il a déjà gagné ce tournoi, il tire très très bien, même si il ne fait pas 25 000 aces par match, mais sa balle est très lourde, très profonde, elle prend beaucoup d'effet, donc il est très dur à manœuvrer. Et on s'en est rendu compte aussi que mentalement, mais il était là quand même, il va beaucoup mieux, parce que la manière dont il a écarté Davidovich Fokina, alors qu'il était 20 moments vraiment au bord du précipice, ça va lui donner une grosse confiance avant de jouer ce match. Maintenant, Rundolo, parfois, je trouve que dans les moments chauds, il a tendance à craquer. Donc, je verrais un peu un scénario à la Davidovic, à savoir Zverev en 3, au mental, avec une partie acharnée, quoi, tu vois.
Je vois. C'est coté à 3,50, Zverev en 3 manches.
Ouais. Cerundolo, il embête beaucoup de gens, mais je trouve que, notamment à Munich, en demi, il a tendance parfois à baisser la tête, quoi. À baisser la tête quand ça se passe pas comme il veut. Et puis, je trouve que, côté revers, c'est moins costaud que Zverev.
Eh bien, écoute, victoire de l'Allemand. La cote sèche est déjà pas mal, hein, 1,50. Dans un combiné, ça peut se tenter.
Ouais, mais c'est un match dangereux parce que si Cerundolo prend le score et qu'il est en confiance, là, il y a danger pour l'Allemand. Donc, je conseille de bien suivre le match en live parce que c'est un match qui peut rapporter pas mal d'argent s'il y a du renversement. Et c'est pas impossible. Parce que franchement, contre Davidovic, il est passé tout près de la cata. Je me souviens, Davidovic, il a une balle de break. Il a un passing de revers qui est assez jouable. Je pense que si Gasquet avait été à sa place, il l'aurait mis les yeux fermés. Bah, lui, il l'a mis dans le filet. Et ouais. ça l'a affecté parce que je pense qu'il était au-dessus. Et d'ailleurs, à la fin du match, tu as vu, hein, Zverev lui a dit garde la tête haute, tu joues le meilleur tennis de ta vie. Il y en a qui ont interprété ça un peu comme pas de la provocation, mais du genre un peu la grosse tête. Non, je pense que vraiment Zverev était sincère parce que Cerundolo, Davidovic, c'est un mec qui joue très très bien, il joue le meilleur tennis de sa vie. Mais il lui manque un truc. Tu te rends compte que ce mec-là n'a toujours pas gagné un tournoi.
Ouais, hein, c'est fou.
C'est dingue. Donc, Zverev mentalement, et puis le fait que Madrid, ça lui réussisse, il est en 3.
Eh bah très bien. Zverev en 3, donc cote de 3,50. Et si jamais vous voulez prendre un peu moins de risque, en tout cas ne pas vous risquer sur un vainqueur, le 3-7, justement, sans donner de vainqueur, c'est coté à 2,10. C'est toujours une cote efficace, notamment sur les matchs sur terre battue. On va continuer avec la rencontre entre Taylor Fritz et Casper Ruud, avec des cotes à la faveur du Norvégien 1,64, l'Américain est à 2,25. C'est le 4e mondial contre le 15e, le Norvégien qui mène 3-1 dans les confrontations, dont l'unique duel sur ocre d'ailleurs à Roland-Garros l'année dernière, un succès en 4 manches. Ruud, qui depuis sa finale à Dallas n'est pas parvenu à enchaîner, lors des tours précédents il a quand même battu Rinderknecht et Korda. En face, Fritz a bénéficié de l'abandon de Bonzi il y a 2 jours, alors que les deux joueurs étaient à 1 partout. Le bilan est positif cette année pour l'Américain, 13 victoires pour 6 revers. Je vais te reposer la même question, Eric, mais est-ce que la grosse tente Fritz peut te tenter, ou est-ce que tu penses que Ruud sur terre fera le travail?
Alors c'est vrai que les premiers tournois sur terre de Ruud ne sont pas bons. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un garçon qui a besoin un peu de temps pour retrouver ses automatismes. Et d'un autre côté, le fait que Fritz ait été vraiment chahuté par Benjamin Bonzi, c'est quand même pas très bon signe pour lui. Benjamin Bonzi avait vraiment l'occasion de le tordre en deux, s'il ne s'était pas blessé au niveau du dos, du trapèze, hein, si j'ai bien lu l'équipe, on n'a pas trop d'infos, j'espère qu'il pourra jouer Rome. Fritz a quand même raté pas mal de tournois. Je crois que c'était problème au dos ou au poignet, je ne sais plus. À mon avis, il n'est pas complètement prêt. Donc, et la manière dont le Norvégien a explosé Korda, je me dis quand même qu'on a quand même affaire à un vrai spécialiste de terre. Ruud, il fait son beurre sur la terre battue.
C'est ça.
On sait, hein, on a vu ses perfs à Roland. C'est quand même un mec qui est ultra solide. J'ai l'impression qu'il a retrouvé un peu son coup droit, donc quand le coup droit va, il est dur à jouer, hein. Il est dur à jouer, Ruud. Et on sait que Fritz, sur terre, même si bon, parfois il fait 2-3 résultats, c'est quand même pas sa tasse de thé. Puis comme il reprend vraiment, il a pris du retard, je me dis quand même que Ruud doit pouvoir s'en sortir.
Très bien. On se contente de la cote sèche à 1,64?
Oui, ça me va. Ouais.
Victoire du Norvégien donc, Ruud qui s'impose face à Taylor Fritz. Toujours chez les hommes, Daniil Medvedev fait face à Brandon Nakashima. Là, les codes pour le coup sont plus déséquilibrés. C'est 1,35 la victoire du Russe. L'Américain est à 3,20. C'est le 10e au classement ATP contre le 32e. Medvedev qui a gagné l'unique confrontation, c'était à Indian Wells en 2023. Connaît là pour le coup les difficultés de Medvedev sur ocre, à l'exception de sa victoire à Rome en 2023. Il n'a disputé qu'un seul match à Madrid cette année en battant je ne sais plus qui l'a battu d'ailleurs, je n'arrive pas à le retrouver. D'ailleurs, il a auparavant bénéficié du forfait de Djere, c'est ça. Et alors la page refuse de se charger, ça y est, je l'ai. C'est l'autre Cerundolo, Juan Manuel Cerundolo, qui l'a battu. Je n'arrivais pas à le retrouver, ça y est, je l'ai. En face, Nakashima a resté sur 3 défaites d'affilée avant son arrivée dans la capitale espagnole. Il a battu Hofner puis Koboli dans ce tournoi. Eric, là, les cotes sont déséquilibrées. Alors, est-ce que tu suis naturellement les bookmakers ou est-ce qu'une surprise est possible selon toi ?
C'est un bon joueur, hein, Nakashima. On l'a souvent dans les paris. C'est un mec qui est capable de poser des problèmes aux meilleurs. Maintenant, j'ai l'impression que les conditions de jeu de Madrid, c'est... Est-ce que c'est l'avantage, Medvedev ? Je suis même pas sûr, parce que comme tu l'as dit, il a gagné Rome. Donc, tu vois, à Rome, ça avait été une surprise totale pour tout le monde. Et puis derrière, il s'était vautré dès le premier tour à Roland.
C'est ça.
Contre ses votes ouïtes. Il a pas fait un bon Monte Carlo. Il avait des petits soucis au service. Donc, on sait qu'au Madrid, quand même, le service, c'est vital. Mais je me dis que Nakashima est capable parfois de sortir des gros matchs. Mais peut-être pas aujourd'hui. Non. Je vais rester sur la logique. Ouais, je reste sur la logique.
Victor Medvedev, donc 1,35. Un petit 3-7, ça te tente pas ?
Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas.
Ouais. Non, t'es pas convaincu non plus, j'ai l'impression.
Si, non, c'est tout à fait possible. Il est capable de l'embêter, ça c'est clair. Hein. Maintenant, il n'est pas entamé physiquement, Daniel, ça c'est clair. Hein. Il a joué un match, basta. Il est frais comme un gardon.
Bon, Medvedev est au moins 20 jeux, c'est 1,82. Donc oui, potentiellement 6-4, 6-4.
Oui.
Ça se tente ça.
Allez, pour ça.
On va sélectionner ça. Mais malgré tout, tu suis donc les bookmakers. Victoire pour toi de Daniil Medvedev face à Brandon Nakashima. On va terminer chez les femmes avec le match qui oppose Elina Svitolina à Maria Sakkari. Là aussi, les codes sont déséquilibrés. L'Ukrainienne est à 1,45, la Grecque est à 2,70. C'est la 17e mondiale contre la 82e. On en est à deux partout dans les confrontations. Mais la dernière remonte quand même à 2021. Il s'agit en plus du premier duel sur terre battue aujourd'hui entre les deux joueuses. Svitolina qui est étincelante depuis plusieurs semaines. Série actuelle de 9 victoires consécutives, bilan de 20 succès pour 6 revers d'ailleurs en 2025. Elle s'est notamment apposée sur l'ocre de Rouen avant d'enchaîner à Madrid où elle a battu Kartal et surtout Rybakina. En face, Sakkari n'a cessé de chuter au classement WTA depuis le début de l'année. Elle est passée de la 32e place début janvier à la 82e aujourd'hui. Elle réalise par contre de très belles choses dans la capitale espagnole où elle vient d'éliminer notamment très facilement Jasmine Paolini 6-2, 6-1.
Ah oui, ça, je ne l'avais pas vu venir.
Ah, mais ça, c'est un score que personne n'a vu venir. Elle n'était pas du tout favorite, la Grecque, et c'est normal face à l'Italienne. Mais non seulement elle s'est imposée, mais en plus, 6-2, 6-1. J'allais te demander comment on peut expliquer cela.
Eh bien, écoute, le déclic, c'est qu'elle a rappelé son ancien coach, un Anglais. Et alors, parfois, il suffit de rien pour avoir un peu de confiance. Mais Paolini avait été plutôt convaincante. C'était à Stuttgart, hein, elle avait été assez loin. Mais là, là, j'avoue que j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai eu le score. Et Paulie, elle aussi, a procédé à un changement puisqu'elle a travaillé plus avec Renzo Furlan. Elle a pris un coach espagnol, l'ami de Rafa Nadal, Marc Lopez. J'avoue que je n'avais pas trop compris ce choix. Là, elle a pris un gros coup sur la tête italienne. Mais bon, concentrons-nous sur Sakkari. Sakkari sur terre, on sait que c'est dangereux. Parce que voilà, elle a... Et effectivement, à Madrid, avec l'altitude, sa balle gicle énormément. Donc c'est un poison pour les adversaires. Mais Elina Svitolina a une telle confiance. Et puis elle est capable de prendre la balle tôt. Donc je vais rester sur Svitolina, qui est vraiment sur une série incroyable. La manière dont elle a détruit Rybakina, ça doit la conforter. Hein, Non, j'ai envie de jouer l'Ukrainienne. Je pense qu'elle a beaucoup d'expérience. Elle sait s'adapter au problème que l'autre va lui poser. Et puis, je me répète, elle est capable de ne pas se laisser embêter par les gitelaines de Sakkari.
Très bien. Victoire donc de Svitolina. Pareil, là, un petit 3-7, ça ne te tente pas ? Ou un petit nombre de jeux éventuellement ? Non, tu te contentes de la cote d'un 45 ?
Ouais.
Eh bien, écoute, victoire de Svitolina pour toi face à Sakkari à 1,45. Et on va en profiter d'ailleurs pour faire le récap. Svitolina donc qui bat Sakkari. Tu dis également que Zverev va finir par battre Cherundolo. Mais là, tu rajouterais 3-7. La cote sèche par contre de l'Allemand, c'est 1,50.
Je vois un match acharné là.
C'est ça. Victoire de Casper Ruud contre Taylor Fritz. Ça, c'est à 1,64. Et si je ne dis pas de bêtises, il nous manque une rencontre. Medvedev qui bat Nakashima. Là, par contre, la cote est plus basse encore. C'est 1,35. Ça nous fait quand même un combiné à 4,82. On met la petite piécette aujourd'hui ?
Écoute, on espère, on croit les doigts.
Écoute, on la met. Et on répète, demain, double récap sur les paris donc d'aujourd'hui et d'hier.
Je suis mal barré sur Muller. Hein. Muller a perdu le premier set contre Tiafoe.
Et je crois qu'il est bien mené là dans le deuxième, non ?
Ah, je sais pas, j'ai pas vu.
Alors attends, et alors je vais te confirmer ça, mais je crois que ça ne sent vraiment pas très bon. Dans le deuxième, on en est à 5-2 pour Tiafoe. Muller-Serm, on en est à 5-2 Tiafoe.
Ah oui, d'accord. Donc il va prendre deux petits.
Il va prendre deux petits sets finalement. Bon. Récap qui s'annonce mal, mais il va falloir y passer malheureusement, Eric. On revient demain du coup pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Eric, salut à toutes et à tous.